Achever ces 3 journées de réflexion autour des apories de la démocratie avec Edgar Morin et Michel Wiewoorka. Je crois que ce n'est pas nécessaire de les présenter. Vous les connaissez très bien. Ils sont tous les deux assez connus en Amérique latine, très lus. Et pour beaucoup d'entre nous, ce sont des vigies, ce sont des penseurs qui nous aident à mieux comprendre ces mystères des apories de la démocratie. Sans plus attendre, je laisserai la parole à Edgar Morin qui m'a promis de trouver quelques solutions pour sortir de ces apories.
De présenter quelques apories.
de présenter quelques apories supplémentaires, et entre apories et apories, il y aura peut-être un eureka. Et ensuite, Michel Wiewoorka va apporter également ses réflexions. Je me rappelle qu'en Colombie, nous avons déjà fait aussi sur ces apories quelques conférences, et vous allez voir, et c'est très intéressant aussi du point de vue d'une réflexion à la manière de Michel Wiewoorka. Ensuite, nous allons avoir des échanges qui pourront être en français ou en espagnol. Tous les deux parlent l'espagnol. Et donc, que la fête, le symposium, soit lancé.
Bon, merci, merci beaucoup, chers amis, mesdames et messieurs. Bon, ça marche, le micro, c'est bien. Bon, voilà, tout d'abord, d'un point de vue de l'histoire humaine, ou du global, si vous voulez, il faut remarquer la marginalité et la fragilité de la démocratie. Ce sont des choses qui souvent vont ensemble, mais pas nécessairement. Bon, même si nous pensons qu'il y a des ancêtres, des préliminaires de démocratie dans les palabres africaines, dans certaines sociétés archaïques, etc., bon, nous savons quand même que l'origine de la démocratie, ne serait-ce qu'avec le mot et l'institution, se trouve à Athènes, dans l'Athènes du 5e siècle, dans l'Athènes de Périclès. Mais même cette glorieuse démocratie dont nous nous réclamons est quelque chose qui fut provisoire et fragile. D'abord, il faut remarquer que c'est Périclès qui, en réformant ce qu'avait fait Simon contre Simon, a pu donner les bases institutionnelles de la démocratie athénienne. Et que cette démocratie a pu durer un certain temps, jusqu'à ce que la guerre du Péloponnèse, non seulement que Périclès meure avant la fin de cette guerre, mais aboutisse à la fin de cette démocratie athénienne. Et donc, quelques dizaines d'années, années glorieuses, mais années fondatrices, mais quelques dizaines d'années. Depuis, il y a eu les cités athéniennes au Moyen Âge, qui n'ont pas beaucoup duré non plus. Et puis, si nous prenons les temps modernes, si nous donnons l'exemple canonique de l'Angleterre, c'est vrai, a eu des institutions limitant le pouvoir royal dès le Moyen Âge, mais il a fallu des siècles et le début du XXe siècle pour que ce soit une véritable démocratie et non pas une certaine oligarchie réservée aux possédants ou aux riches. Et quand les pays les plus hautement symboliques de la démocratie, comme la France, eh bien sa démocratie a sombré en peu de temps. Il y a eu le bonapartisme, il y a eu le retour du roi, il y a eu 1000 épisodes que vous connaissez, et même quand, après le rétablissement de la Troisième République au début du XXe siècle, celle-ci, cette république, s'est effondrée sous le coup d'une invasion nazie. Donc, si vous voulez, on peut dire que la démocratie est fragile. Et pourquoi est-elle fragile? Bah, d'abord, parce que c'est un système qui a besoin d'un long investissement historique de plusieurs générations. Et qu'est-ce qui a favorisé la démocratie anglaise? C'est le fait qu'Angleterre, après Guillaume le Conquérant, n'a pas connu d'invasion. C'est un pays qui a vécu à l'intérieur, par quelques épisodes de guerre civile, mais il y avait... Et il y a cette sorte de continuité, mais on voit très bien que la fragilité vient souvent de l'arrivée de l'ennemi extérieur, vient du fait que la conscience démocratique n'a pas cet enracinement historique qui est nécessaire, et que, en quelque sorte, cette intériorisation, c'est aussi celle d'une règle de jeu, j'y viendrai. Alors, cela étant dit, pourquoi c'est tellement fragile? C'est certainement qu'elle porte en elle quelques contradictions qui lui sont vitales, mais qui en même temps peuvent lui être fatales. C'est ça un peu la complexité du problème. Bon, la première contradiction, c'est que la démocratie comporte en elle-même, si elle veut exister, un minimum d'autolimitation. Vous savez que c'était le problème de nos amis Castoriadis qui voulaient une démocratie totale avec révocabilité permanente des élus, etc., sorte de référendum permanent, ce n'est pas viable. Une démocratie a besoin de se limiter en donnant une certaine règle du jeu, de durée à ses représentants ou à ses mandataires, et ne pas pratiquer le référendum permanent, mais avoir des institutions toujours par délégation. Donc, si vous voulez, il y a cette première contradiction. La démocratie, pour exister, ne peut pas être absolue. Elle a besoin d'une certaine limite. Quelle limite? Ce sont ces problèmes qu'il faut étudier. La deuxième chose qui est très importante, parce que l'idée banale, c'est que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Non, la démocratie, c'est un jeu entre l'opposition de vérités contradictoires, vérités philosophiques, idéologiques, politiques, etc. Et c'est un jeu d'antagonisme. La démocratie est vivante quand elle est fondée sur des antagonismes vivants. Mais là aussi, nous arrivons au paradoxe, il faut que ces antagonismes soient verbalisés, soient ritualisés à travers, évidemment, des règles de jeu parlementaire, et sinon, les antagonismes risquent de faire péter la démocratie. Et alors, voilà la contradiction, quand des antagonismes sont trop violents, eh bien, ils dépassent le stade verbal où ils sont féconds, et ils prennent la forme de coups. Nous avons tous vu des spectacles où des députés se boxaient mutuellement, mais nous avons aussi vu des putschs où, à partir d'un président de la République, on dissout la démocratie. C'est-à-dire que là aussi, nous avons quelque chose. Nous avons une démocratie sans pluralisme, sans de contradiction. C'est quelque chose de mort, c'est quelque chose de plat. Mais une démocratie qui transforme ses antagonismes en violence, en putsch, en coup d'État et en renversement, c'est la faillite. Ben, c'est donc une autre aporie de la démocratie. Ensuite, le problème, c'est qu'il y a un axiome que disaient nos révolutionnaires, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est-à-dire pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie. Or, cette idée n'est pas démocratique, puisque la démocratie doit tolérer, y compris des idées qui portent en elles la menace. Mais vient un moment où ces idées deviennent tellement puissantes qu'elles peuvent elles-mêmes, à l'intérieur de la démocratie, constituer la majorité et produire la destruction de la démocratie. Nous avons vu un exemple historique célèbre avec le nazisme en Allemagne. Nous avons vu un exemple pas exactement pareil avec en Algérie le FIS, c'est-à-dire un groupement théocratique fanatique qui a remporté les élections, qui ont été dissoutes, qui a sauvé, disons, non pas la démocratie, mais du moins un État militaro semi-dictatorial. Mais de toute façon, vous voyez à quel moment, comment ce problème. Alors, bien entendu, dans certaines limites, c'est possible. Par exemple, le Parti communiste qui, en fait, a toujours, une fois au pouvoir, supprimé les formes classiques de la démocratie, a pu être très bien existé, toléré, critiqué, élu, sous la République, entre les deux guerres et pendant la guerre, parce qu'il n'a pas connu des conditions où il a pu risquer. Mais s'il avait eu des bonnes conditions, il y aurait eu, comme à Prague, comme à Budapest, il y aurait eu une dictature totalitaire. Bon. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, là aussi, les états de tension et les états de guerre tendent à restreindre la démocratie. Et c'est très souvent, c'est ce qu'on a vu en France pendant la guerre de 14, une censure qui joue sur les informations, des pouvoirs spéciaux, etc. Le cas remarquable à méditer, c'est le cas de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Car l'Angleterre, non seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale, publiait dans ses journaux les communiqués de l'armée nazie en même temps que les communiqués alliés, mais à continuer l'exercice normal de débat démocratique, évidemment, avec son Périclès de l'époque, qui était Churchill à sa façon, et qui avait cette autorité morale incontestable. Là aussi, c'est très intéressant de penser que ce qui sauve la démocratie, ce n'est pas un dictateur, mais c'est une personnalité qui est un ascendant d'une force de conviction et en même temps légitime, comme ce fut le cas de Périclès, qui était sans cesse réélu stratège de la cité athénienne. Donc, voilà. Alors, j'arrive à une autre, je ne sais pas si on peut l'appeler euphorie, mais c'est-à-dire une sorte de tragédie interne à la démocratie. C'est Claude Lefort qui l'a bien mis en relief, quand il a dit que le propre d'une démocratie, c'est de ne pas avoir de vérité. Ou bien il disait, le pouvoir, c'est un lieu vide. Ben, vide, non. Il est rempli chaque fois, mais par des vérités différentes. C'est-à-dire que la vérité de Chirac a succédé à celle de Mitterrand, que la vérité de Sarkozy avait... C'est-à-dire que le propre d'une démocratie, c'est ça exactement le contraire d'une théocratie ou d'un système totalitaire. La théocratie et le système totalitaire, ils ont la vérité sur l'homme, la vérité sur la société, la vérité sur l'histoire. Or, la démocratie, elle a des historiens, mais qui ne sont pas les chefs de gouvernement, et la démocratie, donc, offre à différentes vérités, si elle remporte les élections majoritairement, d'exercer provisoirement le pouvoir. Mais cela explique une chose, c'est que autant en période de dictature et de totalitarisme, il y a une soif de liberté, donc une soif de démocratie. Une fois que la démocratie est instituée, elle est prosaïsée, elle perd sa poésie, elle perd ce côté enivrant. Une fois qu'on a la liberté dont on jouit comme le pain quotidien, il n'y a plus cette sorte de charme que donne la grande poésie religieuse ou de grands mythes totalitaires. Donc voilà, c'est encore ce problème. D'ailleurs, je dois dire que c'est grâce au totalitarisme que l'on peut mieux connaître la démocratie. Le totalitarisme, c'est la vérité absolue sur tous les domaines, pas seulement politique, philosophique, scientifique, etc. Et d'un parti qui est a totalement domestiqué l'État et toutes les institutions, alors que la démocratie, c'est pas seulement la pluralité des opinions, c'est la pluralité des pouvoirs. C'est le pouvoir judiciaire qui doit être autonome. C'est le pouvoir législatif qui doit être autonome. C'est le pouvoir exécutif qui doit être autonome. Et ces trois pouvoirs doivent, tant bien que mal, communiquer. Alors, la démocratie, donc, n'a perdu sa poésie. Et surtout, nous avons vu qu'avec le temps, avec la désillusion, avec l'abaissement de la pensée des différentes pensées politiques, il y a une dégradation de la conscience citoyenne. La conscience citoyenne démocratique, c'est celle qui tient, comme à la prunelle de ses yeux, à la règle du jeu qui permet les oppositions, les contradictions et le système. Si vous perdez cette conscience, si vous vous dites « Ah, c'est tous des vendus », comme souvent maintenant on l'entend en Italie, « Ah, oui, bien sûr, Mussolini, mais enfin c'était quelqu'un qui allait, c'est mieux que la démocratie ». Vous entendez tout ça, c'est-à-dire le rêve du chef, c'est-à-dire le rêve de l'unité, le rêve même de la soumission volontaire dont a si bien parlé la Boétie, et qui, parce que nous sommes chacun persuadés entre un souci, un besoin de liberté et d'autonomie et un besoin de tranquillité et de sécurité, qu'on ne nous emmerde pas et qu'on nous laisse tranquille. Donc si vous voulez la démocratie, il faut qu'il y ait fortement cette conscience, et qui est très forte à certains moments critiques, comme quand il y a eu les lois de séparation d'Église et de l'État en France, ou comme il y a eu l'affaire Dreyfus, etc. Mais nous avons donc cette absence de règles de jeu. Alors, dans cette situation de crise, nous avons beaucoup de difficultés historiques, puisque, il s'agit de non seulement de reconstituer une pensée politique, il s'agit de reconstituer des pensées politiques. C'est pas seulement cet effondrement des pensées de la gauche qui caractérise notre pays, et d'une façon patente, mais d'une façon non moins éloquente des autres pays, c'est aussi la droite qui manque de véritables pensées, de véritables fondements, de véritables conceptions de l'histoire, du monde actuel, etc. Alors, d'autre part, il faut remarquer cette dernière chose, c'est que nous assistons en ce moment à la transformation de systèmes qu'on pouvait appeler plus ou moins démocratiques, parce que toutes nos démocraties ont des carences et des trous démocratiques, plus ou moins, en systèmes néo-autoritaires. Et ce phénomène, nous le voyons progresser en Europe, dans le monde, nous l'avons vu très souvent en Afrique, mais nous le disons, ça c'est les Africains, mais en Europe, nous avons vu quand même la Russie démocratisée devenir un système néo-autoritaire avec M. Poutine. Nous avons vu la Turquie démocratisée devenir un système néo-autoritaire. Nous voyons la Hongrie devenir système néo-autoritaire. Nous voyons la Pologne, etc. Nous voyons partout surgir des systèmes autoritaires de cette défaillance de conscience démocratique. J'ai peut-être ajouté un dernier point avant de conclure. Est-ce que la démocratie participative peut nous aider à régénérer la démocratie? Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie participative? C'est une démocratie où, une fois que le système fonctionne avec des élus, des conseillers municipaux, des maires, tout ce que vous voulez, une fois qu'elle fonctionne, vous avez des comités de citoyens qui, eux-mêmes, contrôlent leurs contrôleurs, c'est-à-dire des élus. Vous pouvez les faire exister au niveau des communes, des municipalités, des villes. Vous pouvez les faire exister, même parfois, vous les imaginez au niveau du Parlement, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, car ça peut redonner de la vitalité démocratique chez les citoyens qui se sentent exclus. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'important, parce que ça peut donner un contrôle et une stimulation aux élus qui, désormais, sont un peu sous le regard de leurs électeurs. Mais c'est un système qui lui-même est lent, difficile à s'enraciner. Nous avons quelques expériences limitées, intéressantes, notamment à Porto Alegre, que nous connaissons, nous avons quelques autres expériences. Ouais. Mais, en général, tout ce que nous pouvons savoir, c'est que, d'abord, dans ces comités de citoyens, de comités de démocratie participative, il est très fréquent que les absents soient les personnes qui ont le plus besoin d'être là, c'est-à-dire les personnes âgées, c'est-à-dire les femmes, ou c'est-à-dire aussi les jeunes gens. Il arrive aussi souvent que des représentants de tel ou tel parti entrent dans ces comités pour les noyauter et influencer. Et puis dans ces comités, vous savez que souvent ce sont les bavards ou les autoritaires qui prennent la parole et les timides se taisent. Autrement dit, pour que la démocratie participative fonctionne, il faut un enracinement, il faut un apprentissage, il faut voir. Alors, ma conclusion peut vous sembler très pessimiste, mais vous savez, il y a un autre regard qui la rend moins pessimiste. Le pessimisme, c'est il faut repenser, il faut recommencer, il faut retrouver une pensée politique qui elle-même a besoin de s'appuyer sur des connaissances historiques, des connaissances sur l'humain, des connaissances sur l'univers, tout ça. Bon. Nous avons besoin de retrouver une conscience démocratique. Nous avons besoin de retrouver pas seulement une conscience, mais une confiance démocratique, c'est-à-dire une confiance dans les élus, non pas que, en général, on tente à considérer comme tous pourris, sauf son propre député. Donc, il y a beaucoup de... Bon, c'est vrai aussi que nous voyons des efforts de revitalisation, mais qui se situent hors institutions démocratiques. Par exemple, moi je suis très sensible en France, et il existe dans d'autres pays aussi, à ces mouvements citoyens, à ces associations citoyennes qui pratiquent la solidarité, qui pratiquent l'économie biologique, qui pratiquent l'économie solide, sociale et solidaire, et qui pratiquent les éco-quartiers. Il y a beaucoup d'une fermentation citoyenne un peu partout. Mais justement, cette fermentation citoyenne n'arrive pas à s'engrener sur la vie démocratique. Et quand elle a essayé, ce fut le cas en Espagne avec Podemos, eh bien, c'était prématuré. Puisque une fois qu'ils sont arrivés à avoir quelques élus, ils se sont trouvés très embarrassés pour savoir ce qu'il fallait faire, parce qu'ils ne voulaient pas s'allier avec des socialistes, donc l'Assemblée était impossible, et s'ils s'alliaient avec les socialistes, ils perdaient leur identité. Bref, si vous voulez, nous nous rendons compte qu'il y a des choses fécondes, décentes. Donc, voilà, ça peut sembler pessimiste, parce que tout est à recommencer. Mais je trouve que rien n'est plus beau qu'un commencement. Il faut, je pense que l'incitation est très grande, parce que l'incitation, c'est pas simplement pour arranger un peu les choses. L'incitation, c'est pour dire, essayons de nous sauver d'une tendance au désastre, tendance au désastre qui n'a pas seulement des aspects écologiques sur la biosphère, nucléaire, etc., mais qui a des aspects politiques par la décomposition interne de la démocratie, et que si on commence à lutter contre cette décomposition, on peut en même temps mieux lutter contre les phénomènes de dégradation écologique, de climat, etc. Donc, si vous voulez, nous sommes des intellectuels, on est fait là pour essayer de penser. Donc, nous avons à nous donner un programme de travail, une ligne de travail, pour repenser ceci. Et, je conclue, nous pouvons en effet régénérer et faire un effort pour la régénération des démocraties, mais nous ne pourrons jamais faire une démocratie qui ne vit pas de ses propres apories dont j'ai parlé, c'est-à-dire de contradiction entre l'idée d'impossibilité d'être tel. Autrement dit, la démocratie nécessite ces contradictions et par là même nécessite une pensée complexe. Parce que si vous avez une pensée binaire, banale, vous comprenez, vous trouvez que les contradictions sont stupides. Mais si la pensée est complexe, vous dites, eh ouais, ces contradictions sont quand même utiles parce qu'elles permettent la vitalité démocratique. Donc, voilà un peu le message. Repensez, voyez la complexité. Ne pensez pas de faire une chose parfaite. La chose parfaite, ce sera le système totalitaire qui lui-même est le moins parfait. Donc, voilà un grand effort à repenser et je vous remercie de votre attention.
Bon, c'est évidemment pas un cadeau que de parler après Edgar. Je tiens à le dire, et j'ai été, comme tout le monde ici, tout à fait convaincu. Alors, ce que je vais faire, c'est en rajouter une louche sur les côtés aporri, mais essayer d'être un peu plus optimiste que lui dans ma partie conclusive. D'abord, je voudrais rappeler que, puisque tu as évoqué le totalitarisme, le communisme réel, je voudrais rappeler que jusque dans les années 80, on ne parlait pas beaucoup de la démocratie. Ce n'était pas un thème important, me semble-t-il, du débat philosophique ou du débat de philosophie politique. Et puis, tout simplement parce que c'était simple. La démocratie, c'était le contraire du communisme réel. Et puisque on a ici, avec un public qui vient pour beaucoup d'Amérique latine, c'était le contraire de la dictature. Alors, c'est pas la peine de se fatiguer, c'était le contraire. Et puis, sont arrivées un certain nombre de choses. 80-81, Solidarność en Pologne, qui a obligé à réfléchir déjà autrement à la démocratie. Et puis surtout, la chute du mur de Berlin et cette fameuse déclaration stupéfiante de ce politologue américain Fukuyama, c'est la fin de l'histoire, nous entrons dans l'ère généralisée du marché et de la démocratie. C'était pas idiot, mais c'était d'un optimisme ou d'une arrogance démesuré, évidemment. Parce qu'ensuite, les apories, pour utiliser cette catégorie, ont commencé à se profiler. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Edgar, je vais juste rajouter quelques louches au problème qu'il a évoqué. Premier problème, on le voit, la démocratie ne nous aide pas beaucoup à régler les grands problèmes économiques. Le chômage, l'exclusion, l'accroissement des inégalités, nous les vivons en démocratie. Je vais aller vite, hein, parce que je crois que ce qui est important, c'est de présenter comme ça quelques idées. Deuxième problème, les minorités culturelles. À partir des années 70, on s'est mis à discuter de l'utilité ou pas du multiculturalisme. Et donc ça, c'est les minorités culturelles qui veulent rester à l'intérieur d'une démocratie. C'est pas génial, le multiculturalisme. Moi, je l'ai défendu, et je continue encore un peu à le défendre, pas du tout parce que j'étais convaincu à 100%, mais parce que je me disais, si on ne fait rien, alors là, c'est encore pire que si on fait du multiculturalisme. Mais je voyais bien les dangers qui guettent la mise en œuvre du multiculturalisme. Au passage, puisqu'on est entre amoureux de l'Amérique latine, le débat sur le multiculturalisme est un débat dans les sciences sociales presque exclusivement anglo-saxon. Ce que vous pouvez faire en Colombie, ça n'existe pas dans les ouvrages où on discute sérieusement du multiculturalisme. C'est gravissime. Un ethnocentrisme terrifiant. Et puis surtout, puisqu'on parle de minorité culturelle, ce que la démocratie ne sait pas vraiment régler, c'est quand une minorité demande à être indépendante sur un territoire. Et il suffit que je vous dise Catalogne pour que vous voyez tout de suite à quel point on ne sait pas comment faire. Moi, je vous le dis très simplement, j'ai des sentiments partagés. Je ne suis pas sûr d'être pour l'indépendance, mais je ne suis pas sûr d'être contre l'indépendance de la Catalogne. Parce que ce que je vois, c'est qu'une démocratie, l'Espagne, se heurte à un sentiment, une demande démocratique d'indépendance. Ce n'est pas du tout des gens qui mettent des bombes pour obtenir l'indépendance. Et donc, que fait une démocratie lorsque deux légitimités en son sein s'affrontent ? La légalité est tout entière du côté espagnol, mais les deux légitimités, elles existent aussi. Donc voilà un autre thème que tu pourrais ajouter à la liste des problèmes que tu as évoqués. Alors, je crois aussi qu'il faut reconnaître, et là il faut avoir une pensée, je pense, historique, que les systèmes politiques qui assurent le fonctionnement de la démocratie libérale, représentative, sont souvent entrés en crise depuis une vingtaine d'années, plus tard, parfois plus tôt, parfois plus tard, et que ça pose un problème, évidemment, quand on commence à nous dire que droite et gauche, ça ne veut plus rien dire, ou quand on commence à nous expliquer que finalement, ce que tu as évoqué, il faut aller vers un pouvoir autoritaire, ce genre de choses, c'est aussi un problème pour la démocratie. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Edgar, qui est très juste, je cite juste le mot « nazisme », c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand les ennemis de la démocratie obtiennent démocratiquement l'accès au pouvoir, ou peuvent l'obtenir. C'est vraiment des choses extrêmement importantes. Alors, on pourrait certainement continuer, j'ajouterai juste un dernier dossier, je prends un dossier très actuel, pour la France notamment. C'est le dossier, tu as évoqué la Boétie, moi j'évoquerai Montesquieu. C'est le dossier de la question de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que fait-on si pour se préserver, une démocratie considère nécessaire, ou en tout cas une partie de la démocratie, trouve nécessaire de mettre en place des mesures qui vont affaiblir la séparation des pouvoirs. On l'a vu aux États-Unis avec le Patriot Act, on le voit aujourd'hui en France avec le passage de l'état d'urgence à une loi qui met dans le droit commun ce qui étaient les mesures de l'état d'urgence, qui sont des mesures dont un certain nombre de juristes, d'associations humanitaires, d'associations de droits de l'homme, etc., disent qu'elle est, cette loi, en partie liberticide. Alors le mot est peut-être un peu trop violent, mais ça veut dire que le pouvoir judiciaire est, momentanément, nous dit-on, dépossédé d'une partie de ses prérogatives au profit du pouvoir exécutif. Donc, la démocratie peut-elle se défendre en mettant en place des moyens non démocratiques? Voilà un autre exemple, une autre aporie que j'ajoute à la belle liste que nous a proposée Edgar. Alors, à partir de là, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il existe toutes sortes de réponses possibles à certaines, en tout cas, des apories que je viens d'évoquer. Je ne dis pas que ce soient les bonnes réponses, mais la pensée n'est pas totalement démunie. J'en cite quelques-unes qui sont dans le débat public. On nous a dit qu'il faudrait changer les institutions. Si on change les institutions, on revitalise la démocratie. En France, nous avons eu, avant l'élection présidentielle, après c'est terminé, on n'en parle plus, l'idée qu'il fallait passer à une sixième république, qu'il fallait changer de constitution. Donc on nous propose des mécanismes institutionnels. Il y a aussi des gens qui disent que ce n'est pas la peine de changer d'institution, enfin de changer de constitution, pour apporter des changements qui vont améliorer la démocratie. Par exemple, il y en a qui disent qu'il faut introduire plus comment cela s'appelle, la possibilité d'avoir des élus de la... excusez-moi, je cherche mes mots brusquement. De la proportionnelle. Voilà une réponse possible. Modifier ce genre de choses. Donc il y a des réponses de type institutionnel, soit un changement de constitution, soit des changements plus limités. Premier type de réponse. Deuxième type de réponse, c'est il n'y a pas que la démocratie représentative, il y a aussi la démocratie directe ou la démocratie participative ou délibérative dont a parlé Edgar. Alors moi, la démocratie directe, elle m'inquiète toujours un peu parce que ça veut dire qu'entre le peuple et la décision, il n'y a aucune médiation. Et que l'absence de médiation, ça peut conduire à des catastrophes. Le Brexit, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire, on demande au peuple britannique, ou à la nation britannique, si tant est qu'on puisse parler comme ça, est-ce que vous êtes pour ou contre la sortie de l'Europe? On leur raconte n'importe quoi, on leur ment, y compris dans la grande presse, et le résultat, c'est le Brexit. Alors, je m'inquiète de ça, mais je me souviens aussi d'un autre moment de démocratie directe, très intéressant, c'est un moment français. On nous a proposé un référendum pour savoir si oui ou non la France devait accepter la Constitution européenne. Eh bien là, il y a eu vraiment, vraiment tout à fait autre chose que le Brexit, c'est-à-dire beaucoup d'informations. Moi, je revois mes enfants qui étaient très jeunes, qui se farcissaient des bouquins gros comme ça pour essayer de voir les enjeux. Donc on ne peut pas dire que la démocratie directe, c'est l'absence de réflexion, c'est le pouvoir de certains médias démagogiques. Non, pas forcément. Et ceux qui connaissent un peu l'expérience suisse des votations, c'est-à-dire des référendums en Suisse, bien savent que quand il y a une votation, les électeurs reçoivent une très grande documentation. Ce n'est pas des choses qui sont lancées comme ça. Donc la démocratie directe me semble dangereuse, mais j'accepte l'idée qu'on peut la discuter. Puis la délibération, la participation, voilà des solutions qui sont parfois proposées. Alors ça, c'était la deuxième partie de ce que je voulais vous dire. La première partie, c'est pour vous dire il y a des problèmes. La deuxième, il y a des gens qui cherchent des solutions. Mais je voudrais terminer, parce que je ne veux pas être trop long, par quelques remarques optimistes. Moi, je fais partie de ceux qui, évidemment, sont tentés, dans un premier temps, de dire la démocratie est en crise, ça va de plus en plus mal, droitisation des systèmes politiques, tendance autoritaire, vous voyez, toutes ces choses-là, à l'échelle de la planète. Mais quand je réfléchis, je me dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Et que la démocratie, elle progresse dans l'ensemble aussi. Et elle progresse par le haut et elle progresse par le bas. Elle progresse par le haut quand, au-dessus du niveau des États-nations, se mettent en forme des débuts, des esquisses, des ébauches de vie démocratique supranationale. Quand les Nations Unies laissent des ONG se déployer avec leur appui, en leur sein, c'est, je trouve, une extension de la démocratie. Quand il se met en place une justice internationale, avec toutes ses limites, est-ce que ça ne serait pas la justice des vainqueurs, comme demandait Todorov, mais quand même, quand il y a une justice internationale, est-ce que ce n'est pas plus de démocratie à un niveau supranational? Et puis, pour nous qui vivons en France, la construction européenne, n'est-ce pas plus de démocratie à un niveau supranational? Je pense que oui, avec toutes les critiques que, comme tout le monde ici, je suis prêt à faire pour ce qu'il en est de l'Europe. Et deuxièmement, je crois que la démocratie s'est renforcée aussi par le bas. Là, vous me permettrez d'être un peu sociologue. J'ai des collègues qui étudient la sociologie de la famille et qui montrent à quel point la famille, aujourd'hui, pas toutes les familles, pas partout, mais est beaucoup plus démocratique qu'elle ne l'était auparavant. Dans la famille, de plus en plus, on peut discuter. Les enfants existent. Il n'y a pas le père autoritaire, la mère qui la boucle et les enfants terrorisés qui la bouclent encore plus. Tout ça n'est pas général, tout ça n'est pas partout comme ça, mais il y a, je trouve, plus d'ouverture dans la famille. Ou bien, toujours à ce niveau, par le bas, regardez les transformations des institutions. Regardez à quel point des institutions qui ne laissaient rien filtrer de leurs difficultés, parfois de leur obscénité interne, sont obligées de s'ouvrir à ce qu'il y a quelque chose de démocratique. L'Église catholique, aujourd'hui, est obligée de mettre en débat les problèmes de pédophilie et ce genre de choses. L'école, c'est la même chose en France. Les institutions sont obligées de s'ouvrir à une certaine ouverture, à ne pas considérer que ceux qui sont dans les institutions doivent obéir uniquement à la norme, à la loi de l'institution, et se taire. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des changements. Alors, je ne vous dis pas que tout est beau, que tout est rose et que tout est réglé. Mais je trouve que si on regarde les changements, pas seulement au niveau classique de la représentation et de choses qu'on pourrait y ajouter, mais au niveau au-dessus et en dessous de la représentation politique, on peut être un peu plus optimiste. Et je terminerai par une conclusion sociologique. Je crois que la grande affaire, elle est de savoir, et je n'ai pas la réponse, jusqu'à quel point la démocratie comme phénomène politique, jusqu'à quel point pouvons-nous la penser comme relativement autonome de la vie sociale et culturelle. Et jusqu'à quel point devons-nous la penser comme liée à la vie sociale et culturelle, comme l'incarnant, comme la représentant. Si on pense qu'il y a une autonomie complète, ou presque, du jeu politique démocratique, alors l'analyse de la vie démocratique doit poser la question de savoir comment améliorer le fonctionnement de la politique proprement dite. Mais si on pense que la vie politique démocratique a quelque chose à voir avec le travail de la société sur elle-même, alors il faut se poser d'autres questions. Pourquoi sommes-nous incapables aujourd'hui, par exemple, de réinventer l'équivalent de ce qu'a été la social-démocratie dans d'autres pays et dans d'autres moments, c'est-à-dire une force politique reposant directement sur une force sociale, les syndicats. Bon, si on dit aujourd'hui que le jeu politique est totalement indépendant de la vie sociale, on dit autre chose que si on cherche des liens entre la vie économique, sociale, culturelle et la vie politique. La difficulté, c'est que dans bien des pays, cette vie sociale, culturelle, on ne voit pas très bien comment elle peut se structurer pour peser sur la politique. Et c'est pour ça que je termine avec l'exemple de Podemos. Ça m'a beaucoup intéressé, Podemos, parce que dans ce pays, l'Espagne, qui est bien plus sinistrée que d'autres par la crise économique, dans ce pays, l'Espagne, qui a quand même connu une dictature il n'y a pas si longtemps, eh bien, on a vu surgir deux nouvelles forces politiques. L'une, Podemos, qui a quelque chose à voir avec le mouvement 15M, hein, les Indignados, donc un lien entre le social, le culturel et le politique, et l'autre, Ciudadanos, qui est plutôt l'émanation de milieux économiques et financiers. Et alors que le système politique était sinistré, il l'est encore, je pense, mais on a vu apparaître ces deux forces. Alors, des difficultés, des débats, tout ce que Edgar nous a dit sur Podemos, évidemment, c'est juste, mais je trouve intéressante ces expériences où la politique, parce qu'elle est informée par ce qui se joue en dessous dans la société, peut se réactiver et être plus démocratique.